Dans une vingtaine de minutes, rencontre avec le sociologue François Dupuis. Il publie ces jours-ci La fatigue des élites aux éditions du Seuil, une plongée dans le nouvel esprit du capitalisme et une analyse des nouvelles formes de la souffrance au travail. Le management moderne induit solitude, souffrance potentielle et nouveauté, un recul des protections traditionnelles. Au lieu d'inviter les cadres stressés à pratiquer le yoga ou le saut à l'élastique, François Dupuis appelle au renouvellement de la critique sociale et à l'invention de nouvelles formes d'organisation du travail. On en parle avec lui dans quelques minutes. La scène se passe à Londres, dans le très chic quartier de Chelsea. Des cadres, des avocats, des médecins incendient les maisons, renversent les voitures, commettent des attentats terroristes. Les images sont très violentes. C'est une insurrection mystérieuse, sans revendication. Une révolte des élites contre les formes les plus modernes du capitalisme contemporain. Les impératifs du marché, l'ennui, la perte de sens et la vacuité des vies soumises au consumérisme. C'est l'apocalypse version James Graham Ballard dans un roman récent, Millennium People. On peut considérer que c'est de la pure fiction, on peut aussi se dire, je cite, que le spectre d'une révolte des cadres, hier encore inimaginable, entre peu à peu dans l'ordre du pensable. Je cite encore que ce scénario relève de la science-fiction sociologique, mais qu'un faisceau d'indices récurrents suggère que nous pourrions en prendre le chemin. Bonjour François Dupuis.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, professeur à l'INSEAD. Ces phrases que je viens de citer, vous en êtes l'auteur. Elles sont extraites d'un livre passionnant que vous publiez ces jours-ci aux éditions du Seuil, dans la petite collection de la République des idées. Le titre « La fatigue des élites, le capitalisme et ses cadres ». On va suivre avec vous le fil de votre enquête, mais une première question peut-être pour commencer. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du travail, dans les rapports d'échange et de production, pour employer un vocabulaire marxiste, pour qu'on puisse imaginer aujourd'hui quelque chose comme une révolte des cadres?
Quelque chose de fondamental a changé, mais qui est, comme toujours dans les phénomènes sociaux, peut-être un peu difficile à voir, qui s'étend longuement dans le temps. Mais voyez, si on y réfléchit, il y a une période qu'on appelait les Trente Glorieuses. Alors on pourrait se demander, c'était les Trente Glorieuses pour qui ? C'est pas pour tout le monde, en tous les cas. Bien. Et ce que l'on a appelé les Trente Glorieuses, c'est une période dans laquelle, dans nos économies, après la guerre, ce qui était rare, c'était les produits, n'est-ce pas? Les plus anciens se souviendront que pour obtenir une ligne téléphonique, il fallait 2 ans, n'est-ce pas? Quelque chose comme ça. Pour obtenir une voiture, il fallait 6 mois, etc. Bien. Dans une période dans laquelle, effectivement, les produits sont rares, par définition, les producteurs dominent leurs clients. Ça va de soi. Et quand les producteurs dominent leurs clients, eh bien, ils construisent des organisations qui sont destinées avant tout à les protéger. Si je le formulais autrement, je dirais, tant que le produit a été rare, finalement l'actionnaire, il a fait alliance avec ses propres salariés contre ses clients, et il a prélevé sur les clients la marge avant, comme diraient les économistes, qui lui ont permis d'avoir la tranquillité relative, bien entendu, de ses salariés. Puis est arrivé ce qu'on appelle la mondialisation, terme bien général, n'est-ce pas? Mais en fait, si on la regarde dans sa conséquence quotidienne, la mondialisation, ça veut dire que ce qui est devenu rare, c'est le client, soudainement, n'est-ce pas? Vous avez qu'à voir, d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui se passe avec le textile. Vous en avez un très bon exemple.
Qu'est-ce qui se passe, justement? C'est intéressant, cette question-là.
Eh bien, les marchés s'ouvrent. À partir du moment où les marchés s'ouvrent, la concurrence devient sauvage, vous pouvez le dire ainsi. Et quand vous êtes un producteur sur le marché occidental, si vous voulez survivre comme producteur sur votre marché, vous faites face à un client qui a 2 exigences, il vous demande plus, la meilleure qualité du produit, meilleure qualité du service, pour moins, c'est-à-dire de payer moins cher. Alors, quand vous êtes confronté à ça, vous dites, mais comment, plus pour moins, je peux pas le faire. Alors, petit à petit, vous apprenez à le faire dans la douleur, et la seule variable d'ajustement pour le faire, c'est effectivement la façon dont les gens travaillent. Eh bien, ce passage de la rareté du produit à la rareté du client a fondamentalement changé les façons de travailler dans nos pays occidentaux, et ce changement, encore une fois, dont je dis qu'il est peu perceptible au quotidien, n'est-ce pas, eh bien, il est extrêmement douloureux, surtout pour la catégorie des cadres.
Alors on va revenir sur votre lecture de la mondialisation, François Dupuis, sur cette histoire des 30 dernières années, dans la perception, dans les pratiques au travail des élites et notamment des cadres. Vous avez prononcé un mot, douleur. Il y a cette souffrance psychologique relativement nouvelle sur laquelle vous revenez à de nombreuses reprises dans votre livre. J'aimerais qu'on comprenne un instant, qu'on s'arrête là-dessus. On emploie très généralement cette expression fourre-tout, malaise des cadres. C'est quelque chose qui fait la une de très nombreux magazines régulièrement. Pourtant, vous dites que ce n'est pas assez précis comme expression. Non, qu'est-ce que vous essayez de décrire lorsque vous parlez de cette fatigue des élites?
Non, on est loin. Vous voyez, le malaise des cadres, d'un certain point de vue, je dis d'ailleurs dans le livre, le mot malaise est apparu en même temps que les cadres eux-mêmes. En 1947, apparaît se crée l'AGIRC et apparaît en même temps le malaise des cadres. Et j'ai regardé dans toutes les études que nous avons maintenant depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans sur le sujet, on voit toujours apparaître le malaise, mais simplement parce qu'il est inhérent à la situation de cadre. Et d'ailleurs, on voit bien que dans toutes les époques, il est référé à une chose, c'est à l'exercice de l'autorité. Parce que moi, en tant que cadre, je suis à la fois un salarié comme les autres, et je suis celui qui est chargé de faire respecter l'ordre social dans l'entreprise. Donc, c'est une situation qui n'est pas forcément confortable. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes dans quelque chose de tout à fait différent. Alors, moi, j'hésite quelquefois à utiliser le terme souffrance, parce que c'est un terme extrêmement fort. En tous les cas, ce que l'on peut voir, ce sont des cadres qui sont perdus. Et ce sont des cadres qui sont à ce point perdus et sous pression qu'on les voit petit à petit se retirer du travail. Qu'on comprenne bien, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins. Pour reprendre la géniale expression de Robert Castel, le travail n'a pas perdu de son importance, il a perdu de sa substance. C'est-à-dire que l'on y investit de moins en moins et on cherche à se protéger. Alors, vous allez me dire, à se protéger de quoi? Et c'est ça un aspect essentiel. Vous voyez, quand on parle de la dégradation du travail dans nos pays occidentaux, on a tout de suite l'image de la perte de l'emploi. Parce que l'emploi, c'est normal en plus, hein, c'est ce qui frappe l'emploi. Après tout, être protégé par le travail, encore faut-il travailler. Bien, donc ça c'est normal. Mais au-delà de la protection sur l'emploi, les cadres dans nos organisations traditionnelles bénéficient de deux protections qui sont capitales. La première, c'est une protection en face des clients. Quoi ? Parlons franc, le client est un problème. N'est-ce pas? On a beau, dans le monde capitaliste contemporain, le vénérer, il est un problème. Voyez, moi j'ai été professeur dans le secondaire, j'ai adoré les lycées le samedi après-midi et le dimanche, simplement parce qu'il
n'y avait pas d'élèves.
Voilà, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, c'est dans tous les univers comme ceci. Or, dans nos univers, nos organisations traditionnelles segmentées, tayloriennes, je refais pas, etc., eh bien, nous étions protégés du client parce que personne n'était responsable du résultat final. Je sais pas moi, c'est l'autre, allez voir là-bas, allez ici, etc. C'est pour ça que ces organisations avaient découpé les clients selon les tâches à accomplir. Vous êtes tantôt celui qui déclare son impôt, tantôt celui qui le paye. Même quand vous allez chez le coiffeur, vous êtes tantôt le bac et tantôt le banc, parce que vous asseyez quelque part pour qu'on vous lave les cheveux, et on vous fait balader après, même si vous êtes hirsute et ridicule, pour qu'on vous les coupe. Et puis surtout, dans nos organisations segmentées traditionnelles, nous étions protégés des autres. Les chers collègues et néanmoins amis, n'est-ce pas? Souvenez-vous bien que Sartre a dit « l'enfer, c'est les autres ».
Et dans l'entreprise, c'est particulièrement vrai.
Eh ben voilà.
C'est votre analyse.
Eh bien voilà. Et les organisations modernes, avec leurs très jolis mots, parce que le vocabulaire managérial est admirable, n'est-ce pas ? En vocabulaire managérial, ça s'appelle la coopération, ça s'appelle les équipes projets, ça s'appelle la transversalité et les structures matricielles. Sauf que tout ça, ça vous met tout seul au centre de la scène, soumis aux pressions de tout le monde, ce qui devient de plus en plus insupportable.
On va y revenir d'ailleurs, parce que vous faites des analyses sémantiques très drôles d'ailleurs de ce vocabulaire qu'on emploie dans les sciences du management, comme on ne devrait pas dire. Pour en revenir à cette souffrance des cadres, cette souffrance des élites dont vous parlez, ce qu'elle manifeste, c'est une forme de vulnérabilité nouvelle ?
Non, c'est tout à fait ça, c'est une vulnérabilité nouvelle, à la fois, vous voyez, double, on pourrait presque dire, c'est une vulnérabilité, comme je le disais, aux autres, à la pression des autres, à la dépendance des autres, n'est-ce pas ? Nos organisations modernes nous mettent en situation de dépendance, alors que tous autant que nous sommes, nous haïssons la dépendance. Et puis, c'est une vulnérabilité extraordinaire au jugement, car voyez, dans nos organisations traditionnelles, les cadres étaient autonomes. Aujourd'hui, ils sont individualisés, ce qui est tout à fait différent. Ils ont perdu de l'autonomie, c'est-à-dire que pour faire ce qu'ils ont à faire, ils dépendent de tous. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit de les juger, ils sont là complètement individualisés, et je vous garantis que ça met dans des situations de stress qui sont extrêmement fortes.
Une petite précision, François Dupuis, lorsque vous parlez des cadres, en réalité, vous ne décrivez pas seulement une catégorie socio-professionnelle telle qu'on y a recours dans les enquêtes statistiques. Qu'est-ce que vous essayez de décrire au fond ? C'est finalement une version, une lecture de la mondialisation qui ne s'arrêterait pas à la condition ouvrière, par exemple, à ceux qui sont en bas de l'échelle, mais à ceux qui étaient les classes dirigeantes dans l'entreprise ?
Oui, mais moi je vais vous dire, à la réflexion, et vraiment à la réflexion, Je crois que la déprotection du travail, qui est une des grandes caractéristiques issues de la mondialisation, je pense que d'ailleurs, c'est là l'impact peut-être le plus fort sur les gens, je veux dire, si on s'intéresse aux gens, c'est là l'impact le plus fort de la mondialisation. Eh bien, cette déprotection du travail, elle atteint peut-être de façon surprenante davantage les cadres qu'elle n'atteint les autres catégories. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans nos pays occidentaux, ce que je décris est un phénomène des pays occidentaux, n'est-ce pas ? Dans nos pays occidentaux, dans le fond, les catégories non-cadres, ouvriers, employés, elles ont derrière elles une tradition de défense collective. Même si les syndicats ne sont pas très forts, surtout dans un pays comme la France, quand même avant de s'attaquer à ces catégories, il faut faire attention, n'est-ce pas ? Elles savent se défendre, elles ont une tradition de lutte, comme on dit, bien réelle dans nos pays, et bien réelle d'ailleurs dans un pays comme la France. Mais les cadres, vous voyez, ce qui caractérise un cadre, c'est justement son individualité, c'est le fait qu'il est unique. Quand vous allez vous vendre sur le marché du travail, que vous êtes cadre, vous faites ressortir cette individualité. Donc tout ceci ne vous a en rien préparé à une résistance collective. C'est pour ça que la révolte telle qu'elle est décrite dans le roman, moi pour le moment je ne la vois pas comme ça. Je la vois d'ailleurs, peut-être faut-il mieux pour les, je sais pas, pour le capitalisme qu'elle soit comme ça, mais je la vois beaucoup plus, excusez-moi cette image, d'un mouvement insidieux qui remplit le TGV Méditerranée en première classe le jeudi après-midi.
Voilà. Voilà pour la description imagée. Si on revient à ce diagnostic en forme de paradoxe, l'évolution du travail moderne, c'est la responsabilité, l'autonomisation accrue des travailleurs, la mobilisation de modèles presque artistiques de réalisation de soi. La contrepartie, c'est qu'on est profondément seul et qu'il y a cette souffrance qui peut prendre place. On n'a plus l'occasion de recourir à des mobilisations collectives, à des formes de solidarité qui existaient dans des formes anciennes des entreprises.
Absolument. Absolument. Encore une fois, voyez, dans une situation de cadre, vous allez être évalué sur votre résultat, et alors vous allez être évalué et vous allez être rémunéré. Car vous avez bien compris que tout ceci s'accompagne d'une progression, d'une part croissante des du variable dans la rémunération. Donc, vous allez effectivement avoir votre sort qui va être totalement individualisé. C'est ce que l'on appelle l'individualisation de masse de la situation des cadres à laquelle les autres catégories ont pu résister. Vous voyez, il y a d'ailleurs quelque chose chez les cadres qui, normalement, enfin, d'après ce que moi j'ai pu voir, accroît cette souffrance. C'est que vous êtes celui qui l'a subi le premier. Et vous êtes en même temps celui qui doit la légitimité aux autres, la légitimiser aux autres. C'est-à-dire que ça met des cadres dans des situations de schizophrénie extrême. Permettez-moi de prendre un exemple que je cite dans ce petit livre, dans une entreprise que bien entendu je ne citerai pas. Je faisais un séminaire et une dame cadre est venue me trouver en me disant « Monsieur, moi je suis DRH de telle branche et je suis placé en face d'un problème impossible. » On me demande de classer les cadres, mes collègues, en adaptables et inadaptables. C'est déjà vous dire la dureté de l'affaire. Et la dame me dit « Mais moi, monsieur, où dois-je me classer à votre avis ?» Vous voyez, donc vous êtes à la fois celui qui le met en œuvre et celui qui le subit. Donc vous rendez compte dans quelle situation ça vous met. J'ajouterai d'ailleurs un point. Ces situations de malaise fort, qui n'ont plus rien à voir avec le malaise traditionnel, mais de souffrance, les entreprises les ont comprises, observées, mais elles ont trouvé un moyen pour le moment de ne pas les traiter, c'est de les individualiser à nouveau à travers, en faire des phénomènes pathologiques. Donc quand un cadre
en quel sens ?
Eh bien, vous allez dire, par exemple, c'est un problème médical, il est extrêmement fatigué, fatigue des élites, mais individuellement. Donc, vous allez l'aider à résoudre son problème médical. Et donc, ça va vous prémunir contre le fait de poser cela comme un problème collectif.
On va continuer à en parler dans un instant, François Dupuis. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il sera toujours question d'évaluation et de rémunération dans la chronique d'Alain Gérard Slama. Bonjour Alain Gérard.
Oui.
Sujet du jour, les trois leçons de Carrefour.
Oui, j'allais presque dire les trois impasses de Carrefour, mais le jeu de mots était un peu gros. Je dirais plutôt même d'ailleurs l'échec doré des élites dirigeantes. Le montant exorbitant de la retraite de l'ancien patron de Carrefour a soulevé un tollé d'autant plus évident que les employés de Carrefour sont payés pour la plupart à peine au-dessus du SMIC et que l'heure de l'entreprise leur a consenti, après un mois de mouvements sociaux, une augmentation dérisoire de 1,5% pour ne rien dire de la lessive qu'on chicane, n'est-ce pas, aux tenues blanches que certains sont contraints de porter. Mais au-delà de la colère que cette situation inspire, l'affaire est révélatrice de la crise et même, je dirais, des crises que les démocraties libérales traversent en ce moment. Crise des grandes entreprises, d'abord. Depuis trop longtemps, sous l'effet de la mondialisation, la gestion des grandes entreprises a privilégié la rentabilité financière. Et tout le système, nous le savons bien, en est perverti. Les salaires des hauts dirigeants sont fixés à l'échelle de la bulle spéculative, à l'intérieur de conseils d'administration recrutés dans un cercle restreint de grands patrons qui s'échangent la rhubarbe et le séné. Et le résultat de cette dérive est que le contrat qui garantit la retraite est évalué sur la base de ces salaires disproportionnés. Loin donc d'être apprécié en fonction du marché, c'est-à-dire de leurs résultats, ces chefs d'entreprise échappent à ces critères. Et cela alors même que leurs cadres et leurs employés sont, eux, soumis sans état d'âme à la logique du marché. Crise du lien social, d'autre part. François Dupuis évoque avec raison le fossé qui se creuse entre les dirigeants d'un côté et les cadres de plus en plus solidaires des employés de l'autre. Les ressentiments et inconforts ainsi accumulés sont une explication féconde du malaise suscité par l'affaire Daniel Bernard, l'ex-patron de Carrefour. Car enfin, le premier mouvement d'émotion passé, nous savons que les salaires des dirigeants français les mieux payés et leurs retraites n'atteignent pas le tiers de ceux de leurs équivalents anglo-américains. Nous savons aussi que les chiffres publiés à propos de la retraite de Daniel Bernard choquent surtout en raison des défaillances de gestion et de l'exploitation éhontée des personnels qu'on est fondé à lui reprocher. Mais si ce grand patron avait réussi, qui est sorti du rang de surcroît, avait réussi la prouesse d'atteindre ses objectifs, au bénéfice de tous, et pas seulement des actionnaires. Réfléchissons un peu, toute la question est de savoir pourquoi il serait interdit à un salarié de faire lui aussi fortune, à l'égal d'un créateur d'entreprise, d'un banquier ou d'un héritier. La circulation des élites, indispensable pour irriguer la vie d'une société, devrait donner espoir aux cadres. Or nous voyons bien qu'elle les écœure, parce que précisément, l'ascenseur ne fonctionne pas, qui repose sur la base des critères financiers. Troisième dysfonctionnement. Il porte sur l'insuffisance des mécanismes de régulation qui ont pour vocation de maintenir le lien social et les grands équilibres de l'économie. Le capitalisme court au suicide s'il refuse de se réguler lui-même, de s'auto-réguler. Le plus grand risque serait que l'État retombe dans les errements du dirigisme pour se substituer aux chefs d'entreprise défaillants dans le soin de les limiter.
François Dupuis, une réaction ?
Oui, je crois que ce qui vient d'être dit sur l'autorégulation du capitalisme me paraît particulièrement vrai. Mais pour le moment, on n'en voit pas apparaître les signes. C'est-à-dire, sur cette financiarisation extrême de la société, du monde économique, elle est plutôt en phase d'accélération qu'elle n'est en phase de régression. Donc moi, je ferai volontiers l'hypothèse que, comme toujours, il faudra que le capitalisme fasse face à une crise majeure pour arriver à cette autorégulation si elle est possible.
C'est une hypothèse que vous partagez, Alain Gérard Slamin ?
Oui, absolument. De toute manière, vous savez, la sagesse devient que lorsqu'on en perçoit la nécessité. Mais je pense, crise majeure, peut-être pas nécessairement. Parce que regardez, le scandale Carrefour, c'est un signal d'alarme. Il y a des signaux qui se multiplient actuellement. L'Europe elle-même cherche à se différencier des États-Unis. L'Angleterre est isolée au sein de l'Europe. En Hollande, aux Pays-Bas, nous voyons actuellement que le problème suscite exactement la même émotion qu'en France. Je pense donc, qu'il ne faut peut-être pas penser à la catastrophe, parce que la catastrophe, ça voudrait dire que l'État intervienne, et sous la forme d'un dirigisme dont nous connaissons les échecs.
François Dupuis.
Oui, mais ce que moi j'appelais une crise majeure, c'est par exemple, vous avez dit tout à l'heure que les cadres étaient entre guillemets écœurés. Ce que moi j'appelle une crise majeure, c'est pas une révolution, mais voyez, un sondage a montré pour la première fois, je crois publié par les Échos, il me semble, excusez-moi si je me trompe, que lorsqu'on interroge une jeune génération de cadres, dans leur majorité, ils ne veulent pas un jour faire partie du comité exécutif de leur entreprise.
Pour quelle raison ?
Parce que ça ne les intéresse pas, parce que l'investissement doit être ailleurs, et parce que donc faire la carrière rectiligne qui les amène jusqu'au poste de responsabilité leur paraît pas la chose la plus intéressante à faire dans la vie. Donc ce que moi j'appelle une crise majeure du capitalisme, c'est justement de ne plus arriver à attirer et à trouver le meilleur des ressources du pays pour faire fonctionner les entreprises. Et ça, le risque existe.
Alain Gérard, un mot ?
Oui, un mot pour dire tout de même que je crois pas que la crise soit celle du capitalisme, mais de la confusion. Des ordres. Et que cette crise, elle est d'abord une crise politique et une crise du modèle éducatif. De mon temps, on enseignait l'homme aux 40 écus de Voltaire. L'homme aux 40 écus, il était extrêmement riche, mais investissait dans son pays. Avec la mondialisation, nous voyons que ce qui se passe est tout à fait autre chose, l'argent par ailleurs, et il échappe au fisc. Autrement dit, c'est plutôt sur le terrain du politique, cette fois, j'ai pas dit de l'État, et de l'éducation des citoyens, qu'il est possible de rattraper les choses. Ce sentiment de frustration est réel, il est quand même assez largement lié, me semble-t-il, à l'intérieur d'une société qui se défait.
On retrouve ces thèmes, ce diagnostic que vous faites, François Dupuis, la frustration d'un côté, la question de la formation de l'autre.
Oui, mais encore une fois, sur la question de la formation, regardez le livre de Mintzberg qui vient de paraître, n'est-ce pas, sur les MBA. On voit bien qu'aujourd'hui, dans la façon dont on forme ces cadres, plus personne finalement ne finit par y croire, n'est-ce pas? Vous avez un doute énorme. Et quand on regarde la formation permanente, je voudrais souligner un point. Vous voyez, les nouvelles techniques de la communication dont tout le monde est heureux, etc., eh bien, elles permettent aujourd'hui de demander aux cadres le double travail, c'est-à-dire qu'ils sont envoyés à des sessions de formation, et puis d'un autre côté, avec les mails, les fax et tout ce que vous voulez, le soir, on leur demande à nouveau de refaire une deuxième journée de travail. Ça ne fait qu'accroître les phénomènes de pression et les phénomènes de frustration. Et encore une fois, voyez, moi je ne suis pas du tout de ceux qui pensent à une révolte ouverte, etc. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, les entreprises seront obligées de poser de façon forte la question de la rétention de ces populations qui leur sont indispensables.
À tout de suite, François Dupuis. On va continuer à parler de la fatigue des élites, ce livre que vous publiez au Seuil. On va parler aussi de tous ces thèmes qu'on vient d'aborder rapidement, plus en détail dans un instant. On vous retrouve juste après le journal. Vous écoutez France Culture, il est 8h.